Mon nom, c'est Jean Pauluis. Je suis médecin généraliste temps plein et je suis responsable de la cellule environnement de la Société scientifique de médecine générale qui regroupe 3500 médecins généralistes. J'ai été confronté il y a une bonne trentaine d'années à la problématique de Mellery, qui était donc celle d'une décharge dont la gestion a été mafieuse, clairement, ça a été démontré par la suite. Et j'ai été confronté à des demandes de mes patients à laquelle je ne savais pas répondre. Et je me suis rendu compte que les experts que l'on me proposait se trouvaient devant la même difficulté. C'est que c'est un problème de gestion complexe, multiforme, multidisciplinaire, et qu'il y avait un besoin de former les médecins à quelque chose d'autre, qui est qu'on va appeler maintenant la médecine environnementale.
Et est-ce que vous pouvez juste définir en quelques mots ce que c'est la médecine environnementale ?
Le défi en médecine environnementale, c'est de pouvoir résoudre une équation qui paraît relativement simple. C'est de définir d'une part la toxicité d'une substance qui est en lien avec son exposition. Donc, une substance est toxique. Si vous êtes exposé à cette substance, il y a un risque, une probabilité de voir une maladie qui va découler de cette exposition. Les choses se compliquent très fortement parce qu'en fait, en médecine environnementale, on n'est pas exposé à une substance, mais à toute une série de substances, donc ce qu'on appelle l'effet cocktail, avec des molécules qui ont des toxicités différentes suivant l'âge de l'exposition. Avec toute la problématique des perturbateurs endocriniens que j'aurais du mal à vous expliquer en 2 minutes, mais globalement, ce sont des molécules qui vont se comporter comme des hormones, c'est-à-dire avec des très faibles concentrations et qui vont avoir des effets sur le fœtus, et ces effets sont susceptibles de se transmettre de génération en génération, c'est-à-dire qu'il y reste une sorte d'imprégnation de l'ADN du fœtus suite à son exposition qui se reporte sur les générations futures. En d'autres termes, l'expression qu'on peut voir d'une maladie aujourd'hui, d'une personne, peut être le reflet de son exposition à son âge fœtal, mais également l'exposition de ses parents ou de ses grands-parents. Ça, c'est pour les dangers, pour la toxicité d'une molécule. Et puis en environnement, il faut pouvoir comprendre les voies d'exposition, donc modéliser l'exposition. Les expositions environnementales, je l'ai déjà dit, sont des faibles doses, mais 24 heures sur 24. Elles sont très fortement liées aux conditions de vie et donc à la précarité, donc le lien pauvreté-environnement est très fort. Et puis alors dans la gestion du risque de l'autre côté de l'équation, on se trouve face à des personnes qui vont devoir prendre la responsabilité de gérer le risque. Ça, c'est donc le problème, on va dire, des politiques, de nos responsables politiques. Je ne vous apprends rien en disant qu'on a un système politique complexe en Belgique, avec 9 ministres de l'Environnement et de la Santé, avec des pressions, des lobbies. On le voit au niveau européen, quand il faut arriver à la définition de ce qu'est, par exemple, un perturbateur endocrinien, on discute pendant des années là-dessus, parce qu'on n'est pas certain, Donc il y a des pressions qui s'exercent sur y compris le monde politique. Face à cela, il y a des aspects qui peuvent améliorer cette gestion de risque, et qu'il y a une demande. En travaillant sur ce dossier-là depuis 30 ans, je perçois depuis 2-3 ans vraiment un frémissement, il y a une prise de conscience. Je pense que c'est en train de se mettre sur pied. Il est temps, je dirais, il est temps de casser l'idée qu'informer ou expliquer aux citoyens qu'il y a des situations à risque va créer des paniques. C'est souvent ce qu'on met en avant, et c'est souvent le monde politique met ça en avant en disant « si vous le dites, vous allez créer de la panique chez les habitants ». Les sociologues qui ont travaillé sur ce type de domaine disent que non. C'est souvent justement une information incohérente qui n'est pas partout la même, qui va générer la pire des choses, ce sont les rumeurs.
Est-ce qu'on a des chiffres pour la Belgique, sur l'autisme, sur le diabète, sur les lymphomes non-Hodgkiniens dont on parle souvent dans le lien avec les produits chimiques en général?
Écoutez, les chiffres précis, personnellement, je ne les connais pas. Si je ne les connais pas, et si vous ne les demandez, c'est qu'il y a un besoin de les connaître. Alors, il faut absolument, je crois, que l'on puisse avoir un cadastre géoréférencé de toute une série de maladies. Vous me parliez des cancers du sein et des autres. C'est un cadastre qui pourrait être fait entre autres par le registre des cancers. Mais il faut faire d'autres cadastres que ceux-là. Ça peut être le diabète type 2, par exemple, ou ça peut être des manifestations alors beaucoup plus fréquentes et réversibles. Je pense aux crises d'asthme et aux usages de bêta-stimulants, par exemple, au niveau respiratoire. Donc, il faut pouvoir détecter beaucoup plus tôt les effets. Et c'est un des rôles futurs des médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, etc., c'est de pouvoir déterminer beaucoup plus tôt l'émergence de certains effets de santé, de pouvoir les référer quelque part en disant « dans mon secteur, dans mon espace de travail, j'ai l'impression qu'il y a plus de, mettons, diabète type 2, pour donner un exemple comme ça, et les géoréférencer ». Il y a vraiment un gros travail statistique à faire pour être beaucoup plus précis et pouvoir répondre à la question que vous venez de me poser.
Alors, je voulais savoir si, selon vous, donc c'est plutôt les autorités européennes, pour le coup, prennent suffisamment en main les problèmes quand ils adviennent et font disparaître les produits les plus dangereux.
Ouais, ce problème que vous mettez en avant est complexe. Je me sens tout en bas de la pyramide, donc un petit peu mal placé pour aller juger du fonctionnement du européen en règle générale. L'Europe n'est pas armée pour réagir suffisamment rapidement, et je dirais même la société en règle générale, pas spécialement l'Europe, mais on met au point des technologies ou de nouvelles molécules tous les jours, hein, 148 000 molécules, il y en a plusieurs milliers qui sortent par an. La capacité d'analyse de l'Europe de ces molécules est de 50, m'a-t-on confié, donc c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de molécules sur le marché qu'on ne sait en analyser, donc il y aura toujours un retard dans la construction actuelle de notre société entre la mise sur le marché de nouvelles technologies et la capacité de mettre en place les mécanismes de vigilance qui s'imposent face à ce genre de situation.
Est-ce qu'un médecin environnementaliste pense plus loin, c'est-à-dire se met à réfléchir aux alternatives, à la façon dont l'agriculture pourrait changer et évoluer ?
Ce que je pense avec l'agriculture, c'est que les agriculteurs sont nos partenaires. Et je crois qu'il faut vraiment dire aux agriculteurs, on n'est pas du tout contre vous. Vous êtes quelque part les premières, entre guillemets, victimes de l'emploi des pesticides. Les deuxièmes victimes, ben, nous on les voit, c'est en partie nos patients, etc. Donc il y a un contrat, je dirais, de confiance, un contrat de coopération qui doit se créer entre, je dirais, le monde de l'agriculture et le monde médical dans un premier temps. Faire prendre conscience aux agriculteurs que c'est vrai que peut-être la production immédiate va un peu augmenter de l'un ou l'autre pour cent si on emploie tel ou tel produit, mais que cette production génère un coût de santé publique qui est peut-être supérieur à l'augmentation de rendement, ce que je crois personnellement, sans en être certain. Mais on est donc très proche des gens, agriculteurs et médecins. On peut vraiment faire quelque chose de cohérent avec une réflexion commune.